Il est 18h30 à Paris, 17h30 en temps universel. Je vous laisse en compagnie de Romain Onzoui pour le débat du jour.
Merci Marion. Et on parle d'un gouvernement qui tangue ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Onzoui.
Et ce gouvernement, c'est le gouvernement français qui est confronté à de grandes incertitudes. On entre dans la dernière ligne droite du projet de loi Finances 2025, texte capital, et qui pourrait bien précipiter la chute de l'équipe dirigée par le Premier ministre Michel Barnier, car ce texte, en l'état, ne satisfait pas le premier parti à l'Assemblée nationale, autour duquel tous les regards se tournent, depuis la formation du gouvernement d'ailleurs, c'est le Rassemblement national, et par conséquent le RN menace de voter une censure promise par la gauche. D'où notre question ce soir, est-ce que le gouvernement français peut tenir? Comment peut-il éviter cette censure? Et s'il tombe, quelles conséquences, quelles perspectives? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio. Émilie Zapalski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes communicante, politique, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Face à vous, Olivier Roucan, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques, le CERSA. Notre troisième invité, Valérie Gasse. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Romain.
Chef du service politique de RFI. Merci beaucoup à vous trois. Alors, pour commencer, je voudrais brièvement revenir en arrière, 21 septembre dernier, composition du gouvernement qui est annoncée, après avoir été présentée comme une mission impossible. Un gouvernement qui est dirigé donc par Michel Barnier, nommé 16 jours plus tôt, membre du Parti Les Républicains, force politique arrivée en quatrième position à l'issue des élections législatives. Donc alors qu'on dit, on va peut-être le vérifier ensemble, que les jours du gouvernement sont comptés, est-ce qu'on peut faire un premier bilan de l'action de ce gouvernement, Olivier Roucan? Qu'est-ce qui a été fait en un peu plus de 2 mois?
Ah, ça, c'est
c'était la question piège. Oui, merci Romain.
J'avais pas prévu.
Qu'est-ce qui a été fait? Il a été fait une ébauche de budget quand même en très peu de temps. C'est difficile de faire un budget. Il y a eu des propositions et c'est un budget d'exception puisque au départ 60 milliards d'économies. Bon, c'est tout à fait disproportionné par rapport aux tentatives régulières de diminuer la dépense publique. Donc ce n'est pas rien. Ensuite, il y a la gestion, malgré tout, des ministères. Il y a la gestion de crise. On pense notamment à l'agriculture. Il y a beaucoup de communication aussi pour que certains ministres commencent à être visibles. Il peut y avoir quelques annonces et il est vrai que sur le plan normatif, ce ne sont pas les lois ou même la publication de décrets qui pour l'instant singularisent ce gouvernement. Et c'est compte tenu du contexte, c'est normal.
Ben oui, c'est la question que j'allais poser, Émilie. Est-ce qu'il peut publier des lois, des décrets?
Ça paraît compliqué, là, pour le moment. Je crois qu'il faut plutôt savoir ce qu'il n'a pas fait. Alors, il y a en effet tout ce qui est lois qui ne peuvent pas être, pour l'instant, votées. Mais il y a aussi pas de 49.3, quand même, puisque là, vous avez parlé du budget pour le moment. Ouais. Pour le moment, il n'y a pas eu de 49.3, ce qui n'avait pas été le cas auparavant sur le budget avec Elisabeth Borne qui dégainait le 49.3 plus vite que son ombre, et relativement vite. C'est vrai que la promesse de Barnier, c'était de dire « je vais laisser les débats parlementaires et je vais laisser les parlementaires reprendre leur place ». Et je pense qu'il a été à la hauteur jusqu'à maintenant de sa promesse. Et deuxième chose, il y a eu peut-être pas complètement pas, mais en tout cas moins d'effets de communication, c'est-à-dire moins de promesses très très grandiloquentes comme on a pu avoir par exemple avec des Gabriel Attal.
C'est à l'image du Premier ministre finalement, Michel
complètement,
Barnier.
Complètement, c'est-à-dire que c'est un style nouveau. Ouais. Moi, il me semble que c'est un style qui convient bien... nouveau, ancien.
Ouais, c'est,
c'est un style qui convient bien au moment, c'est-à-dire quelqu'un de beaucoup plus calme. Alors négociateur, hein, grand brexitateur, c'est lui qui a négocié le Brexit pendant plusieurs années. Donc quelqu'un qui sait un peu manier les jeux politiques, ce qu'on dit à voix haute et ce qu'on ne dit pas à voix haute, mais qu'on essaie de négocier. Donc je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Après, tout ça, ça ne veut pas dire qu'il y a déjà du chaos, parce que globalement, personne n'est d'accord avec lui, même dans son socle qu'on dit commun, personne ne partage globalement les idées qu'il a avancées sur le budget.
Alors, c'est intéressant, parce que vous avez dit pas encore de 49.3, mais Valérie Gasse, est-ce que ce n'est pas la question centrale? Est-ce que s'il y a un 49.3, le gouvernement tombe? Est-ce que c'est aussi mathématique que ça?
Non.
Là, est-ce que ce sujet, il est plus éruptif que jamais ?
Pour revenir sur ce qu'on disait, ce qu'il n'a pas fait, en tout cas, ce qu'il a essayé de faire, c'est d'avoir une méthode différente. Oui. Son ambition, c'était de ne pas être Elisabeth Borne, c'est-à-dire d'engager son gros morceau, hein, c'est le budget. Avant le budget, il n'y avait rien, et après, il n'y aura peut-être plus rien, puisqu'on ne sait pas s'il y résistera. Mais en l'occurrence, il a voulu avoir une méthode, qui était la méthode Barnier, c'est-à-dire, je n'arrive pas, je fais un 49-3, puis un deuxième, puis un troisième, puis un dixième. Et donc, ça, c'était l'affichage. Alors, il l'a mené jusqu'au bout avec tous les inconvénients. C'est-à-dire qu'il a laissé un débat budgétaire qui est parti n'importe où, n'importe comment, qui a eu un texte qui a été... Enfin, en tout cas, qui n'a pas permis de sortir quelque chose de concret. On a eu un texte, un projet de loi finance finalement rejeté par le socle commun, entre guillemets, de Michel Barnier, parce qu'amendé par la gauche et donc qui ne respectait plus du tout les engagements d'économie, d'augmentation d'impôts. Donc, il n'a pas vraiment... Il a laissé faire. En effet, mais on arrive peut-être aux limites de se laisser faire. Et de toute manière, au bout du bout, il n'a pas de majorité, donc il utilisera le 49-3. Il y aura une motion de censure. Et la question, c'est de savoir ce qui se passe après, si le RN appuie sur le bouton éjectable pour Michel Barnier ou pas. Ouais. Voilà. Oui, et puis, entre-temps, eh bien, il n'a pas réussi à garder un socle. Alors, ça a eu tous les noms, l'alliance, la coalition, l'attelage. Bref, on a fini sur le socle commun, qui n'est pas vraiment un socle, et où ils n'ont pas grand-chose en commun les uns avec les autres. Donc, politiquement, on arrive un petit peu au bout du phénomène Barnier, de l'engouement qu'il y avait un peu au départ pour ce style dont on parlait justement différent, d'un homme peut-être un peu âgé, mais qui affichait quand même un peu d'humour, une autorité qui disait, moi, je sais négocier, je sais... Pour l'instant, il a donné un cadeau sur le budget à Laurent Wauquiez, qui s'en est tout de suite vanté dans les médias, mécontentant les autres partenaires du socle commun. Et puis, il a pour l'instant pas contenté le Rassemblement National dont son sort dépend. La gauche n'est pas contente. Donc là, on est dans le money time pour Michel Barnier.
Est-ce que, Olivier Roucan, finalement, on parle du socle commun, il est trop petit, ce socle commun, ce gouvernement est trop fragile pour diriger et finalement, il est menacé dès qu'il va prendre une décision ?
Mais ça, on le sait depuis le départ, il n'y a pas de majorité. Mais
donc, il ne peut pas vraiment diriger.
Sur un point quand même, sur la communication, je suis d'accord, il y a quand même eu de la communication sur la gestion de crise autour de Retailleau.
Et le ministre de l'Intérieur
qui a été très visible, hein, on se rappelle au début. Donc, il y a quand même eu la volonté de consolider, de ce point de vue, l'ancrage d'un gouvernement auprès de l'opinion et auprès d'une partie de la majorité. Avec d'ailleurs quelques décrets dans la lignée de la loi votée par son prédécesseur, adoptée. Et puis, il commence à y avoir une visibilité de Genevard autour de la crise agricole. Mais pour revenir à ce que vous dites, je pense que la première étape de l'Assemblée nationale, je pense que Michel Barnier, il pouvait difficilement éviter ce laisser-faire. Et il compte sur le Sénat, hein, c'est un jeu à plusieurs bandes, l'adoption d'un texte. Donc, il compte sur le Sénat pour recommencer à mettre un peu de cohérence.
Donc là, le texte, il est au Sénat.
Voilà. Et ensuite, je pense que c'était assez anticipé de sa part. Ce n'était pas, si vous voulez, un laisser-faire sous forme d'abandon ou d'improvisation. Mmh. C'est vraiment une stratégie qui est la sienne. Qu'elle convienne à la logique d'opinion de nos démocraties, non, parce que de toute façon, on ne comprend plus le jeu parlementaire. Je veux dire, le hiatus, il est là, c'est-à-dire qu'on est dans une phase plus parlementaire de la République, il faut que tout le monde s'adapte, à commencer par les acteurs et à commencer par les parlementaires eux-mêmes.
Alors, je voudrais qu'on entre dans le dur du sujet, parce que la question n'est pas de savoir ce que vaut le gouvernement Barnier, mais est-ce qu'il peut tenir à l'épreuve, notamment des prochaines semaines, le mois qui va débuter à la fin de la semaine, va être crucial. Je vais donner trois échéances clés qui correspondent aux trois textes budgétaires qui sont donc actuellement au Sénat et qui vont revenir à l'Assemblée. 4 décembre, budget de la Sécurité sociale pour 2025. Le 6, donc 2 jours plus tard, le projet de loi de fin de gestion de 2024. Et autour du 20 décembre, juste avant Noël, le budget général pour 2025. Donc ça fait 3 raisons finalement...
Alors même ça va plus vite que ça parce que là aujourd'hui il y a la commission mixte paritaire, c'est-à-dire qui réunit des sénateurs et des députés sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Il va sûrement en sortir quelque chose dans les heures qui viennent,
cette nuit,
savoir si elle sera conclusive, ça veut dire si ces députés, ces sénateurs vont réussir à se mettre d'accord.
Donc même avant ces trois échéances,
lundi il y aura une discussion sur les résultats de la commission mixte paritaire sur le budget de la sécurité sociale. C'est pour ça que le calendrier s'accélère un petit peu, parce que maintenant on commence à parler de censure sur ce texte-là, parce que s'il y a, discussion, il y aura 49-3, parce que ça ne peut pas être voté, il n'a pas la majorité, Michel Barnier. Donc il l'a dit, il l'a redit encore hier, il utilisera le 49-3. Il y aura dépôt de motion de censure et examen la semaine prochaine d'une potentielle motion de censure.
Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une multitude de raisons pour lesquelles le gouvernement risque de tomber. Et très peu de chances, finalement, qu'il ne tombe pas.
Oui, mais ça, encore une fois, on le savait. C'est ce que disait Olivier. On savait, dès le départ, que Michel Barnier, et puis ce socle commun, je ne sais même pas pourquoi on dit ça, parce qu'il n'y a rien de commun dans ce socle.
On n'a rien trouvé de mieux.
Voilà. Oui, c'est vrai, la minorité
commune. La question, c'est est-ce que le gouvernement peut encore se sauver ?
Mais ce qui a changé, c'est que le Rassemblement national, au démarrage du gouvernement Michel Barnier, avait dit... on vous met sur surveillance, c'est-à-dire qu'on sait que c'est le RN qui est l'arbitre et qui peut dégainer, en effet, ses votes sur une éventuelle censure qui serait proposée par le NFP.
Donc, on rappelle juste le NFP, c'est une motion de censure. Si le RN...
En fait, s'il y a le 49-3, il peut y avoir une motion de censure déposée par le nouveau Front Populaire.
Ça fait tomber le gouvernement.
Et sur laquelle le Rassemblement, s'il vote, peut faire tomber le gouvernement. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse, puisque s'il y a une motion de censure déposée par le RN... le nouveau Front Populaire a dit qu'il ne le voterait pas. Mais on voit que le RN, au début, avait mis fortement la pression sur le gouvernement. Cette pression, elle a un petit peu baissé, parce qu'ils sont occupés avec le procès qui se termine là et dont on aura les résultats le 31 mars pour Marine Le Pen, avec la question de son inéligibilité. Mmh. Ils se sont mis un petit peu en veille, hein, quelque part, et les électeurs de la base commençaient à s'énerver un peu en disant « Mais pourquoi vous ne montrez pas un petit peu plus vos dents vis-à-vis du budget et du gouvernement Barnier ?» Donc, ils remontent au créneau, et on entend par-ci Jean-Philippe Tanguy qui dit « Motion de censure », Marine Le Pen qui dit « C'est pas nous qui provoquerions le chaos si on votait la motion de censure ». Le chaos, c'est déjà Macron qui l'a... Enfin voilà, on sent qu'il y a cette pression. Moi, j'ai l'impression quand même, mais après, je peux me tromper, que c'est aussi un jeu de rôle. Et on ne sait pas ce qui se passe un petit peu en filigrane dans les discussions, même si Marine Le Pen a été reçue par Michel Barnier et s'est montrée très déçue. Peut-être qu'elle essaie d'obtenir des choses aussi, même qui ne relèveraient pas forcément du budget, mais sur la loi immigration, sur la proportionnelle aux législatives. Il y a des choses qui doivent se dealer pour qu'elle puisse essayer de ramener quelque chose pour éviter d'avoir à voter la motion de censure. Parce qu'on parle de cette motion de censure, mais ça n'arrangerait pas du tout le Rassemblement national. C'est pour répondre à sa base. Mais ça n'arrangerait pas du tout, vu les procès et vu le calendrier, parce que si on fait de la politique fiction...
Pourquoi ça arrangerait pas le RN ? Parce que si on se dit que justement le RN est maître du jeu politique parce qu'il est celui qui peut contribuer à faire tomber le gouvernement, ça montre aussi le pouvoir du RN.
Oui,
en quoi est-ce que
derrière,
ça ferait pas les affaires du RN ?
Bah derrière, qu'est-ce qui se passe ? Il ne peut pas y avoir de dissolution.
Avant le mois de juin,
alors on peut imaginer une démission d'Emmanuel Macron avec des élections présidentielles, avec une éventuelle inéligibilité de Marine Le Pen, et on sait que de toute façon, moi je vais appuyer là où ça fait mal, on sait que le Rassemblement national, depuis septembre, ils se mettent en ordre de marche pour une éventuelle dissolution qui arriverait en juillet et qui ne les arrangerait pas, parce que lui, eux, ils veulent plutôt jouer 2027. On sait qu'ils essaient de récupérer leur force, parce que, je suis désolée, mais on a vu leur fragilité au moment des législatives, et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas encore assez costauds pour monter au créneau, même avec plus de 100 députés à l'Assemblée nationale.
Ce que vous nous dites, Émilie Zapalski, c'est que finalement, le RN, c'est de l'affichage et ne votera pas de motion de censure.
Moi, j'ai l'impression. Après, s'ils sont poussés, parce qu'on voit bien que l'opinion publique, on a vu, hein, 53% des Français sont pour la motion de censure. On a vu que même 63% se déclarent même pour la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils auront... Ils sont vraiment dans un dilemme. Hein. Est-ce qu'ils répondent à leur électorat qui dit « Allons-y, soyez plus radicaux » Ou alors, est-ce qu'ils jouent quelque chose de plus long terme dans cette stratégie de normalisation qu'ils ont eue et de responsabilisation en essayant de jouer un petit peu plus loin pour gagner probablement plus tard.
Oui, parce que Olivier Roucan, finalement, voter la motion de censure, c'est dire que finalement le RN participe au chaos en précipitant la chute du gouvernement. C'est un point en moins pour la notabilisation du RN. Quelle est la meilleure stratégie du Rassemblement national en vue de son objectif qui est la présidentielle de 2027 ?
Je suis assez d'accord avec ce que dit Émilie, c'est-à-dire la meilleure stratégie, c'est sans doute d'essayer d'obtenir quelque chose d'assez visible pour contenter une partie des militants qui doutent un peu, qui sont dans le doute après les échecs successifs, parce qu'il y a ceci aussi. Et la crédibilité à gouverner du RN n'est pas à la hausse, d'ailleurs, dans l'enquête qui est sortie de Kantar, même si, sur des tas de points, ils améliorent leur situation. Sur leur capacité à gouverner, ce n'est pas encore ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ils n'ont pas gagné la bataille de ce que l'on appelle la respectabilité, etc., tout ce qu'on veut, la cravate. Bon, ce n'est pas encore gagné, cette affaire. À cet égard, le parti ou la force politique qui sera la plus visible, si d'aventure il y a une censure et donc un désordre supplémentaire et une crise plus aiguë, ce parti sera rendu responsable de la détérioration économique et financière de la France. C'est-à-dire, les sondages sur les Français sont pour la dissolution, pour le départ d'Emmanuel Macron, moi je veux bien, mais est-ce qu'ils seront pour payer des taux d'intérêt beaucoup plus élevés quand ils iront faire un crédit immobilier ? Est-ce qu'ils seront pour l'augmentation brutale des impôts, parce que si la situation financière et économique de la France se dégrade, alors qu'il y a déjà plein de plans de sociaux qui sont là. Alors, je ne suis pas en train de dérouler l'argumentaire de Michel Barnier hier aux 20h, mais il y a une partie quand même de cet argumentaire qui sont des faits. L'écart de taux avec l'Allemagne, il a déjà commencé à augmenter depuis la dissolution jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire...
C'est un point important de dire qu'est-ce qui se passe si le gouvernement tombe, si donc il n'y a pas de budget, parce que tous les experts s'accordent à dire cependant que le risque de paralysie...
Il y a une loi spéciale, on reprend le budget de l'année 2024 et par 12e, et ensuite il peut y avoir des systèmes... Bon, mais naturellement qu'il y aura un impact s'il n'y a pas de budget, mais on n'en est pas là. Et il faut quand même dire que pour le Rassemblement national et pour Marine Le Pen, certes, ils avaient une stratégie de notabilisation, de respectabilisation, et qui est un peu percutée par l'enjeu du dépôt, du vote, d'une motion de censure qui mettrait quand même tout ça un peu à mal. Mais il faut aussi avoir des gains politiques à un moment. Parce que là, on est dans une assemblée où elle se targue d'être la chef du premier groupe, d'être la super opposante. Et voilà. Et en fait, elle menace, elle se plaint et elle n'obtient rien à ce stade.
Elle obtiendra peut-être
d'ici lundi prochain. Mais à ce stade, il y a beaucoup d'électeurs du RN qui se disent le chaos, la crise financière et tout ça, qui vivent très mal, qui ont l'impression d'être déjà dans le chaos et que finalement, cette candidate qui devait les défendre contre un système qui les oppresse, eh bien, elle ne le fait pas. Et donc, elle a, c'est ce que disait Émilie, il y a un dilemme. Mmh. C'est-à-dire qu'il va falloir peser le pour et le contre jusqu'au dernier moment. Est-ce que Michel Barnier va faire le pas, va tendre la main sur une mesure qui pourra lui permettre d'afficher qu'elle a remporté quelque chose, ou est-ce que ce ne sera pas suffisant ? Il a avancé sur la proportionnelle. Il a dit qu'il allait mettre en place une réflexion. Et voilà. Mais ça, c'est quand même à terme. Il y a la perspective de la loi immigration. OK, mais ce n'est pas tout de suite. Là, il y a le budget, c'est le gros morceau. Il n'arrête pas l'ORN de parler du pouvoir d'achat des Français, donc il faut quelque chose aussi qui concrètement lui permette de dire « je ne vote pas la censure parce que j'ai quand même obtenu ça » et que ça permettrait en effet d'éviter le chaos qu'on nous décrit, même si, il faut quand même noter que ces derniers jours, Marine Le Pen a répondu à cet argument du chaos, elle-même dans une tribune et tous ses lieutenants, pour dire « non, tout ça, c'est pas vrai, on vous raconte des bêtises ». Donc il y a une guerre de communication autour de ça.
Oui,
mais là, on est vraiment dans les jours cruciaux, ouais. De la négociation pour savoir de quel côté va tomber la pièce. Il y a aussi un côté opportuniste chez Marine Le Pen, dans le RN, qui surfe en effet sur ce qu'on ressent de l'opinion, de sa base électorale. Donc ça va certainement se jouer au dernier moment.
On parle beaucoup du RN, on ne parle pas du PS. C'est la porte-parole du gouvernement qui a dit que le Parti Socialiste a une responsabilité inouïe, parce que le Parti Socialiste peut être aussi celui qui fait tomber le gouvernement. Alors, au risque de fortement fracturer la gauche, Émilie
Zabalski. Oui, parce qu'on entendait des voix au Parti Socialiste qui disaient que de ne pas s'aligner avec la France insoumise et de ne pas participer à cette censure. Mais globalement, ils sont plutôt pour la censure si le budget reste comme ça. Mais c'est vrai qu'ils peuvent jouer un petit peu un rôle de mini-arbitre avec la soixantaine de députés, puisque, a priori, la motion de censure ne passerait pas, même s'il y avait les voix du RN, les NFP, sans le Parti Socialiste. Donc, ils peuvent jouer jouer là-dessus. Et l'idée de Boris Vallaud, c'était notamment d'essayer, si ça marchait, d'avoir une espèce de pacte de non-censure. C'est-à-dire, enfin, c'est un peu nébuleux encore, et à mon avis, c'est pas encore tout à fait prêt. Mais moi, je voudrais revenir juste sur Michel Barnier. Je trouve que on va un peu vite sur son non-bilan, parce que je trouve qu'il a fait quand même passer, et on le voit là dans sa façon de négocier avec les uns les autres, il a purgé cette idée, enfin, il a purgé la méthode qui faisait auparavant de ne pas parler, enfin, de ne pas laisser faire les parlementaires, les élus et tout ça. Il a complètement changé cette façon de faire. Il négocie, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et surtout, il a imposé la question de la dette. Mais ça, on ne s'en rend même plus compte. C'est-à-dire que la dette, on savait qu'on avait la dette, mais on ne savait pas qu'on devait s'en occuper vraiment.
Mais il est en train
vraiment de
revenir en arrière sur un
oui,
certain nombre
sauf
de...
qu'il joue l'intérêt général. À chaque fois, depuis le début, il s'est mis sous le couvert de l'intérêt général, tout en négociant. Il peut très bien dire, voilà, on me tiraille de chaque côté, moi je joue l'intérêt général, si on n'y arrive pas, c'est vrai que l'enjeu, il était fort, 60 milliards pour revenir à un déficit bien moins, je crois, de 5%. Enfin, c'est énorme ce qu'il a prévu comme une économie. Donc il avance quand même ses billes petit à petit.
Est-ce que le gouvernement français peut tenir la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, alors qu'évidemment il est soumis à de fortes turbulences, ce gouvernement. On entre dans la dernière ligne droite du projet de loi Finances 2025 et les prochains jours, les prochaines semaines s'annoncent à haut risque pour un gouvernement menacé de censure. Mes trois invités, Émilie Zapalski, que l'on entendait, communicante politique, fondatrice de l'agence Émilie Conseil, Valérie Gasse, chef du service politique de RFI, et Olivier Roucan, politologue, enseignant, chercheur en sciences politiques et chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. On a fait le bilan des deux mois du gouvernement Barnier. On a évoqué la marge d'action finalement sur cette question du budget et évidemment le rôle du Rassemblement national. Olivier Roucan, que se passe-t-il si la censure est adoptée, si le gouvernement tombe? La suite, c'est quoi?
Mais la suite, c'est qu'il faut quand même continuer à gérer les affaires courantes. La suite, on la connaît déjà.
On l'a déjà vécu.
On l'a déjà vécu. Il faut... une équipe provisoire, il faut le temps de nommer un nouveau gouvernement et il faut, pendant ce temps-là, que la France cherche à adopter un budget. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Moi, je pense que ça a été dit. La méthode, c'est de redéposer, redéposer un budget et que ce dernier, ensuite, alors il y a ou là, s'il n'y a pas de. Si le Parlement ne se prononce pas, il y a la méthode des ordonnances. Ou bien le Parlement a le temps de se prononcer. Dans ce cas, alors, eh bien, on tombe sur ce qui a été dit, c'est-à-dire il faut adopter une loi qui permet au gouvernement de lever l'impôt et ensuite il dépense les crédits au fil de l'eau. Mais il faut adopter ensuite en 2025 un vrai budget, un nouveau budget.
Avec un nouveau gouvernement, parce que le gouvernement démissionnaire, il va durer combien de temps?
Il faudra.
C'est Emmanuel Macron qui décide.
C'est à chaque fois pareil.
Il est quand même vraisemblable.
Valérie Gasque, est-ce que si le gouvernement tombe, il va nommer un nouveau Premier ministre? Est-ce qu'il peut faire comme la seule fois dans l'histoire de la Ve République où le gouvernement est tombé avec une motion de censure, c'était Georges Pompidou, qu'il a renommé?
Oui, il peut.
Il peut renommer Michel Barnier, je ne suis pas sûre que ce soit l'option prioritaire. De toute manière, l'Élysée commence à distiller les informations comme quoi le président est prêt, il renommera dans les 24 heures un Premier ministre, si jamais... depuis hier, on entend des choses qui filtrent de l'Élysée sur le fait que le président a entériné la motion de censure et qu'elle allait arriver très vite. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? À l'Élysée, ils adorent lancer des ballons d'essai dans un sens, dans un autre, et puis ça tombe généralement à côté de ce qui avait été dit au départ. Mais de toute manière, oui, il faudra renommer un Premier ministre. Alors, lequel?
Est-ce qu'on peut imaginer que Emmanuel Macron reparte sur les pistes de la gauche.
Cazeneuve, on va en parler de Thierry Baudet.
Non, mais encore une fois, le résultat des législatives, victoire du nouveau Front Populaire, la piste Lucie Casté.
Non, mais la piste Lucie Casté, même la gauche n'en veut plus. Donc il n'y a pas de Lucie Casté, de retour de Lucie Casté. Qu'il y ait eu un aller. Mais... Ouais.
Dans ce que vous avez dit, moi, la nomination en 24 heures d'un Premier ministre, ça, j'aimerais bien voir ça de la part d'Emmanuel Macron.
Oui, ce serait quand même assez spectaculaire, mais c'est la petite musique.
Ça serait quand même assez extraordinaire. Mais oui, alors ça peut être Barnier 2, mais a priori, ce n'est pas ce que souhaiterait même Michel Barnier si jamais il tombait après la motion de censure. Mais surtout, ce qui est important, c'est que là, et vous l'avez dit, Olivier, on a déjà vécu ça pendant 2 mois, c'est-à-dire un gouvernement provisoire avec des ministres qui sont là, mais qui ne sont pas là, parce qu'ils ne peuvent rien décider, qui gèrent les affaires courantes. Super. Et qu'est-ce qui se passe? On est quand même dans... Enfin, je ne sais pas, le contexte économique et financier de la France, il n'est quand même pas flambant. Le poids de la France au niveau de l'Europe, il n'est pas flambant. Oui. La situation d'un certain nombre de Français et de Françaises n'est pas terrible. Les agriculteurs sont déjà dans la rue. Enfin, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a suffisamment de raisons pour se dire qu'il faut se retrousser les manches. Il n'y a pas que le budget qui est important. Il y a plein de lois, ne serait-ce que sur les agriculteurs. Prenons cet exemple. Il y a une loi qui est quasiment prête. Il y a plein d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Alors, c'est sûr, c'est dans 10 ans, mais qu'est-ce qu'on fait pour les installations, pour leur libérer du foncier, pour que ça soit pas, qu'ils ne gagnent pas 3,06 euros
Oui, et puis...
Je trouve que ça... En fait, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais à force de ce chaos, je trouve que c'est quand même... Moi, je pense que
la France...
C'est grave pour la France.
Oui, mais quelles sont les solutions?
Alors, les solutions, c'est d'essayer de trouver un peu des accords comme essayait de faire Michel Barnier. Le PS, c'était un peu dans cet esprit qui disait s'il y a une motion de censure et qu'on avait éventuellement la possibilité de monter un gouvernement... Je ne sais pas si c'est Cazeneuve ou quoi, mais ils veulent faire l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de tracer des lignes pour gouverner, ils veulent tracer les lignes qui leur permettraient de ne pas tomber. Enfin, je veux dire, on est à gouverner par défaut.
Que des accords sont possibles avec la fragmentation aujourd'hui de l'Assemblée?
Les accords possibles, on les...
Parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas de dissolution possible avant le mois de juin prochain.
Non, les accords, on les a. De nouveaux accords. Quel est l'intérêt aujourd'hui du Parti Socialiste s'il veut rester à peu près uni? Formellement, quel est l'intérêt de basculer dans un accord avec une sorte de socle commun? Alors, on l'appellerait différemment, mais c'est c'est une somme d'impossibilité. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à voir le PS gagner. Une équipe qui soutient un exécutif qui est instable, qui n'a pas de perspective et qui mettrait une rupture face à l'opinion et aux électeurs par rapport à la stratégie qui a été choisie et assumée depuis des années.
C'est pas tout à fait ce qu'ils proposent. Ils proposent un pacte de non-censure, c'est-à-dire se mettre d'accord pour avoir le plus petit dénominateur.
Pour l'instant,
la stratégie du
l'instant,
NSP,
je suis
c'est
désolé,
une stratégie électorale pour les législatives. Ce n'est pas une stratégie d'accord le long terme avec LFI. Parce que le nœud du problème pour le Parti Socialiste, c'est est-ce qu'on reste, on coupe ou on ne coupe pas.
Je suis désolé, mais la question pour le Parti Socialiste, c'est de se dire à un moment donné, est-ce que j'ai intérêt à rompre cette alliance ou pas?
Tout à fait.
Et à l'heure actuelle, je pense que l'avantage est très faible de le faire. Ce n'est pas le moment, ils ne sont pas encore assez forts.
Dernière question. Est-ce que la situation, elle va être intenable jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron? Et est-ce que la seule option, solution, est-ce que c'est imaginable? Je vous pose la question, Valérie Gasse, vous qui justement êtes bien informée de ce que dit l'Élysée. Est-ce que cette option d'une démission anticipée d'Emmanuel Macron, elle est imaginable?
Difficilement, franchement. Connaissant Emmanuel Macron, on le voit mal prendre cette décision. Je pense qu'il a vraiment envie de terminer son deuxième quinquennat, d'autant que son bilan là est bien entaché et qu'il aimerait bien laisser une trace dans l'histoire pour après. Maintenant, s'il y a crise politique sur crise politique, si un gouvernement tombe, un deuxième gouvernement tombe, un troisième gouvernement tombe, la question se reportera sur l'Élysée, sur Emmanuel Macron. De fait, il ne peut pas. Et c'était aussi peut-être une. Ce serait un point d'accord entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, pousser Emmanuel Macron à démissionner pour une présidentielle anticipée, ça pourrait être leur espoir secret. Ça paraît pas l'option la plus probable, mais une situation catastrophique de crise politique successive pourrait peut-être les contraindre.
Et bien voilà, le gouvernement peut-il tenir? Ça va être compliqué, mais c'était prévisible, c'est ce que vous nous avez dit d'une certaine manière, vous trois. Merci beaucoup Valérie Gasse, Olivier Roucan, Émilie Zapalski. Merci beaucoup à vous, merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat et à Hélène Avril qui était à la réalisation. Elle est juste après le grand journal du soir. Dans une minute, ce sera Afrique Soir dans un peu plus de 30 minutes. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain.
On jette un coup d'œil au programme ce soir?
Oui, c'est un jour de présidentiel en Namibie, un pays sur lequel règne depuis 34 ans la SWAPO, un scrutin qui est toujours en cours d'ailleurs et qui pourrait déboucher sur l'alternance, car la jeunesse qui est minée par le chômage rejette le bilan du parti au pouvoir. Dans l'actualité également, des Soudanaises dans des camps de réfugiés au Tchad, dont celui d'Adré, accuse des humanitaires de l'ONU ainsi que des forces de sécurité tchadiennes d'avoir commis des abus sexuels. Nous parlerons également de la découverte de cet important gisement d'or en Côte d'Ivoire, un gisement de classe mondiale, nous dit-on. Il pourrait produire jusqu'à 11 tonnes de métal précieux par an. Et c'est une pépite pour l'économie de la Côte d'Ivoire.
Eh bien, merci beaucoup, Sylvie Berru. Un très bon programme. Restez à l'écoute de RFI dans 30 secondes, le grand journal du soir avec